Voilà, on a entendu tout à l'heure où viennent ces voix. Et là, j'aimerais vous inviter simplement cet après-midi à vous attendre au Seigneur. Amen. Et j'aimerais, pour introduire ces moments, lire un psaume, le psaume 42, verset 1er. Le psaume 42, verset 1er, au chef des chantres, cantique des filles de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur, quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie, des actions de grâce, d'une multitude en fête. Pourquoi t'as-tu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéa. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière à Dieu, au Dieu de ma vie, pardon. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent car mes persécuteurs m'outragent. En me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu. Amen. Il y a dans nos cœurs, bien sûr, toutes sortes de désirs, d'attentes. Je pense que si vous êtes venu cet après-midi, c'est qu'il y a dans votre cœur quelque chose d'intérieur qui vous dit, il fallait venir, il faut venir, il faut venir, pour écouter le Seigneur, pour entendre de lui quelque chose. On sait qu'également dans ce monde, malgré ce que l'on peut voir, eh bien, c'est qu'il y a l'espoir. Vous savez qu'en cherchant, on va trouver. Hein, en cherchant la vérité, on finira par la trouver. Alors, nous avons comme ça des idées préconçues que si nous cherchons Dieu, tôt ou tard, on finira par le trouver. Peu importe où, par quel chemin, bien sûr. Alors, j'aimerais vous dire que ces attentes, ces désirs, ces espoirs que nous avons au plus profond de nos cœurs, bien sûr, Dieu n'y est pas insensible. La Bible nous dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Alors, je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, mais ce que j'aimerais te dire simplement, c'est que cette attente qu'il y a en toi, ce désir qu'il y a en toi, cet espoir qu'il y a au fond de ton cœur, Dieu n'y est pas insensible. Dieu montre une chose, c'est qu'il s'intéresse, on le voit à des grandes foules, puisque des grandes foules suivaient Jésus, mais également il va s'intéresser à une seule personne dans le désert, qui était en soif de vérité, qui voulait comprendre. Alors sachez que Dieu d'abord, premièrement, aime que lorsque des hommes et des femmes le cherchent, bien sûr, et qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, même si bien souvent ils cherchent, je dirais, de la mauvaise manière, au mauvais endroit, Dieu déjà aime qu'on le cherche, qu'on prenne le temps de l'invoquer, qu'on prenne le temps de lui poser des questions. Ça, c'est la première vérité. Dieu aime qu'on le cherche. Que l'on soit, je dirais, dans une situation difficile ou facile, Dieu veut qu'en tout temps, quelque part, l'homme incline son cœur vers lui. L'homme cherche tout simplement sa présence. La Bible nous dit que lorsqu'un malheureux crie, bien sûr, je l'ai cité, l'Éternel l'entend. Lorsqu'un malheureux crie vers l'Éternel, il l'entend. Et la suite est formidable. Il le délivre de toutes ses détresses. Or, on a dit beaucoup de choses de la part de Dieu. J'ai entendu des personnes, alors que je ne le connaissais pas beaucoup, moi, me dire, mais Dieu ne peut pas dans tel domaine. Ou Dieu est incapable dans un autre. Pourquoi est-ce que Dieu ferait ceci ou cela? Ou alors Dieu n'entend pas. Dieu est trop loin. Pourquoi est-ce que Dieu s'occuperait d'une affaire pareille? Voyez? Mais moi, je vois une chose, c'est que il nous sauve de toutes nos détresses. Et dans ces paroles que nous venons de lire, bien sûr, nous pouvons dire d'une certaine façon, eh bien, que David, qui lui invoquait l'Éternel, d'abord, on voit une chose, et ce constat est là, c'est qu'il se parlait à lui-même, voyez, il se parlait à lui-même, Et puis, il parlait également avec le Seigneur lui-même. Dans le verset 6, il dit « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Donc là, il se parle à lui-même. « Pourquoi gémis-tu sur moi ?» Et il dit « Mais attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. » Et par deux fois, dans ce psaume, nous voyons que David, bien sûr, se parle à lui-même en se disant « Attends-toi à Dieu. » Je ne sais pas à qui vous vous attendez. Vous qui êtes venu cet après-midi, est-ce que vous êtes venu simplement pour m'entendre, pour chanter? Ou est-ce que vous êtes venu pour vous attendre à Dieu? C'est important. Parce que Dieu répond à notre attente. Dieu répond à notre prière. Dieu, justement, quand je disais qu'il aime, eh bien, quand on le cherche, eh bien, là aussi, il va prendre plaisir à nous montrer. Eh bien, que lui-même s'est réjoui de notre recherche, de notre attente. Amen. Voulez-vous vous attendre à Dieu? C'est une question. Avec un point d'interrogation derrière. Hein? Non, c'est une question. Hein? Voulez-vous vous attendre à Dieu?
Amen.
Peut-être vous êtes en train de dire, ouais, mais ça, je ne sais pas s'il peut, le Seigneur. Il peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Vous réalisez? Vous voyez une montagne devant vous. Vous êtes là dans une situation difficile et vous dites, mais oh là là, comment on va faire? Si je pouvais contacter un tel, un tel, un tel. La Bible nous dit, tourne les regards vers l'Éternel. Et quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. C'est loin de la détresse. C'est à l'opposé. C'est loin finalement de tout ce questionnement qui est dans notre cœur. Mais comment est-ce que je vais faire? Tourne les regards vers l'Éternel. Et il te répondra si tu l'appelles, si tu l'invoques. Amen. Voulez-vous vous attendre à Dieu comme le faisait en son temps cet homme, David? Sachez que beaucoup d'autres ont fait, eh bien, comme David, bien sûr. Je précise que David, dont il est question dans ce psaume, c'est un roi. Hein, c'est le roi d'Israël. C'est un homme habitué à se défendre contre ses ennemis, bien sûr, contre des armées nombreuses. C'est un homme qui savait faire la guerre. C'était un homme qui était un fin stratège. C'était un homme habile, courageux. C'est un vaillant guerrier. Amen. Un homme qui était à la tête d'un peuple nombreux. Il avait également de nombreuses et grosses responsabilités. Voyez cet homme. Eh bien, malgré la description que je viens de vous faire de David, nous constatons que cet homme, eh bien, savait qu'à des moments de sa vie, ses capacités, cette force qui était en lui, ne lui servait à rien. Parce que, eh bien, dans des moments si particuliers, il savait qu'il n'y avait que Dieu pour le secourir. Il n'y avait que Dieu pour le sortir de là. Il n'y avait que Dieu qui pouvait apporter la solution. Et voyez-vous, s'attendre à Dieu, c'est tout d'abord manifester la foi. C'est-à-dire une confiance, une ferme confiance, tout simplement en Dieu, en sa parole, en Jésus son Fils. Savez-vous que Jésus est là présent dans ce lieu cet après-midi? Tu en es consciente? Hein, Fabienne? Oui. Il n'y a que toi?
Non, non, non.
Ah, il y a Pascal à côté. Savez-vous que Jésus est là?
Amen.
N'osez pas trop, hein, si je me trompe. Mais non, il est là. Où deux ou trois sont assemblés au nom du Seigneur, il est au milieu d'eux. Je recommence. Savez-vous que Jésus est là cet après-midi?
Amen.
Ah, il y en a de plus en plus de convaincus. Jésus est là. Pourquoi? Parce qu'on s'est rassemblés. Je dirais sous son regard, sous sa personne, autour de sa parole, dont Jésus dit, moi, je suis là. C'est-à-dire que si je suis là, il se passe des choses. Vous rendez compte? Partout où Jésus est passé, il y a eu des faits qui ont été authentifiés, bien sûr, mais il y a eu des faits qui ont marqué le cœur de l'homme, puisqu'ils sont retranscrits dans l'Écriture, qui également ont marqué l'histoire, qui ont marqué des populations. Donc si cet après-midi, je dis que Jésus est là, c'est qu'il se passera des choses, ou il est en train de se passer des choses. Amen. Est-ce que ça aussi, vous le croyez? Combien? Pascal et Fabienne. Non? Marcelin aussi. Non, je crois que si nous sommes honnêtes et vrais, il peut y avoir des doutes en nous. Mais quand nous sommes devant la parole de Dieu, quand on entend qu'un homme comme David, un homme important, J'ai quelque part dressé sa carte de visite, elle aurait été bien plus longue si j'avais pris le temps de le faire, mais cet homme qui savait se défendre dans la vie, eh bien il savait en même temps qu'à des moments, il ne pouvait plus rien faire. Et peut-être tu es dans une situation où tu sais que tu ne peux plus rien faire. Et tu dis, il n'y a plus que le Seigneur. Et ça, c'est une bonne réaction. Parce que si tu dis, il n'y a plus que le Seigneur, ça veut dire que tu ne peux t'attendre qu'à lui. Je dis bien, qu'à lui. Et quand il dit, invoque-moi, je te répondrai, c'est le moment dans ton cœur d'invoquer Jésus. D'ailleurs, je pense que si tu es venu dans ce lieu cet après-midi, tu pourrais être ailleurs. C'est que tu as choisi quelque part de venir pour entendre sa parole, son conseil, s'attendre à lui également. Je disais, c'est manifester une confiance en sa parole. Il est dit que dans l'Écriture que sa parole, c'est la vérité. Amen. La vérité de Dieu, la soupeser ou comment la sur le plan, vous savez, pécunier, comment dire, mais voilà, ça vaut tant. Ça vaut tous les trésors de la terre. La vérité. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où ce n'est que le mensonge. C'est pas vrai? Nous vivons dans un monde où on ne sait plus à qui on doit faire confiance. Je regarde, moi, la parole de Dieu, elle est immuable. Aucune ombre de variation. Amen. Ni changement, ni ombre de variation, c'est la parole de Dieu. Alors s'attendre à Dieu, c'est lui dire, voilà, tu es mon espoir, c'est en toi que je veux mettre ma confiance. Je ne sais pas quelle est ta situation, c'est pourquoi je me sens libre. Amen. Alors celui qui s'attend à Dieu va trouver, je dirais, une bonne parole qui va être capable de le réjouir, de le réconforter, de le restaurer, de le rassurer, quelque part de le mettre comme au large. Vous savez, on a des fois des situations qui nous prennent tout entier. Elles nous prennent. Elles s'accaparent de nous et on ne voit plus que ça. On a beau tourner les yeux de côté à droite, à gauche, on ne voit plus que ça. Et bien sûr que ça devient une montagne. Ça devient quelque chose de très élevé. Au plus nous le regardons, au plus nous tournons autour, nous disons, mais il n'y a pas de solution. Humainement parlant. Parce que la foi peut tout. Amen. La foi comme un petit grain de moutarde, vous savez, un petit grain de sénévé. Rappelez-vous d'Israël, le long des routes, le petit grain de sénévé. Eh oui, c'est tout petit. Mais alors, quelle force, quelle capacité, peut déplacer des montagnes. Dire une montagne, jette-toi là, hein? Enlève-toi de là, jette-toi dans la mer. Hop. Et ça, c'est possible. Donc, voyez, ta petite foi, mon ami, si quelque part tu veux cesser de gesticuler, mais fixer les regards sur la parole de Dieu, t'attendre à Dieu lui-même, eh bien cette petite foi, petite graine-là, elle va permettre le miracle. Amen. Elle va permettre le miracle. S'attendre à Dieu, déjà, première des choses, pour avoir son salut. Le salut de notre âme. Je ne suis pas venu vous présenter une religion nouvelle, mais simplement vous parler du Sauveur, de celui que Dieu nous a donné. La Bible, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le message de Dieu, pour les hommes, bien sûr. C'est la parole de Dieu qui est destinée aux hommes et aux femmes de tout temps, de toute génération, parce que ce n'est pas un vieux livre. Même s'il est vieux, il n'est pas vieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas dépassé. Il est toujours d'actualité. Et voyez-vous, dans l'ensemble de toutes ces pages, Dieu ne fait que cela, hein, nous parler, pour notre bien, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous sauver, parce qu'il veut nous amener à la réconciliation avec lui. Donc, dans toute la Bible, vous voyez qu'il est question de cela. Dieu qui veut se manifester pour l'homme. Dieu qui veut intervenir dans sa vie. Alors, bien sûr que notre première attente ne se trouve pas forcément dans le salut. On a, je dirais, tellement d'autres besoins. D'ailleurs, trop souvent, même nous ne sommes pas conscients de la situation dans laquelle nous sommes. Hein, quelquefois, je ne sais pas si vous êtes, certainement ça vous est arrivé, mais vous souffrez, mais vous ne savez pas de quoi. Vous n'êtes pas bien, mais vous ne savez pas de quoi, ni pourquoi. Vous ne savez pas ce qui se passe. C'est un mal diffus qui est là, bien sûr. Et nous sentons que nous ne sommes pas bien intérieurement, mais ça ne va pas plus loin. On ne sait pas. Je ne suis pas bien. Et lorsque la Bible dit ceci, que tous les hommes ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, bien sûr, nous pensons qu'il s'agit des autres. Mais la Bible nous dit non, il ne s'agit pas des autres, mais d'abord de toi, c'est-à-dire de toi personnellement. Alors comment un homme ou une femme peut s'attendre à Dieu pour son salut? Tout d'abord, il faut s'approcher de lui avec humilité. J'ai entendu des personnes me dire, vous savez, il m'entendra le bon Dieu quand je me présenterai devant lui. Bon, je veux bien, hein? Et quand je lis un petit peu la parabole de ce roi qui fait des noces, des conviviers étaient invités, ils ne viennent pas. Et quand je regarde un petit peu, tous ceux qui vont venir, c'est ce qu'on va trouver le long des chemins, parce que les invités, les convives n'étaient pas dignes. Et que va se trouver là au milieu un homme qui n'a pas voulu revêtir l'habit de noces. Il va être dit à cet homme qu'il faut qu'il soit lié pieds et mains et jeté dans les ténèbres du dehors. Comment est-ce qu'il a pu discuter avec le roi? Il n'a même pas eu le temps. Vous voyez? Alors, la réalité, elle est là. C'est que je vais m'approcher de Dieu avec crainte, avec humilité, avec respect et avec confiance, en reconnaissant ce que je suis. Oui, je suis un homme pécheur, je suis une femme pécheresse. Amen. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton pardon. Seigneur, sauve-moi. J'ai vraiment que tu effaces le poids de mon péché. Parce que le péché, au départ, il peut y avoir un certain plaisir, une certaine extase dans un acte, dans quelque chose que semblable, mais le péché, c'est le péché. Et on sait que le salaire du péché, j'invente pas, hein, c'est la mort. Mais en attendant, quelle souffrance! Parce que quelquefois, on avale quelque chose, on dit, ça fait du bien, mais alors après, c'est comme un torboyau. Vous voyez? Et bien sûr, quand on est pris, on commence par le bout du doigt, et puis on finit par tout y laisser. Alors oui, il faut reconnaître, et je suis dans une situation difficile, peut-être que j'en suis victime, peut-être que j'ai bien cherché bien à y être, et maintenant j'y suis. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de toi. Amen. Et il faut savoir là que Dieu s'est déjà occupé de ce problème numéro un. Comment? Eh bien, en envoyant Jésus son Fils. C'est lui qui a donné sa vie sur le bois de la croix. C'est lui qui s'est chargé de nos péchés. Amen. Lui qui était juste, eh bien, il s'est fait pécheur pour nous, les injustes. Il l'a fait. Il l'a fait volontairement. Et aujourd'hui, eh bien, nous pouvons nous attendre à Dieu pour notre salut, pour le salut de notre âme, mais nous pouvons aussi nous attendre à Dieu pour bien d'autres choses. Par exemple, nous attendre à lui pour la guérison de nos corps. Est-ce que vous croyez que la guérison divine, est encore d'actualité aujourd'hui dans notre 21e siècle? Pensez-vous, pasteur, nous sommes dans une ère moderne. Aujourd'hui, la médecine a fait des progrès fabuleux. Oui, amen. Et merci Seigneur pour l'intelligence que tu donnes à ces hommes, pour les capacités que tu leur donnes, les moyens que tu leur donnes. Merci Seigneur. Mais car la médecine ne peut plus rien. Dites-moi, que faire? Sinon, tourner les yeux vers le Créateur, vers celui qui nous connaît si bien parce qu'il nous a créés. Amen. La guérison divine occupe une place importante dans toutes les pages de la Bible. Elle est un signe, autrement dit un miracle, selon le langage du Nouveau Testament, un signe, un miracle qui authentifie plusieurs choses. J'en ai noté trois. Premièrement, si vous priez au nom de Jésus et que vous êtes guéri, ça atteste quoi? Amen! Que Jésus est vivant! Parce qu'on nous a dit que c'était une histoire ancienne, Jésus! Il est mort sur le bois de la croix! Mais on oublie de nous dire qu'il est vivant, qu'il n'est pas resté dans le tombeau, ni sur la croix, qu'il est ressuscité. Amen! La deuxième chose, ça atteste la défaite de Satan qui est à l'origine du mal et de la maladie. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Vous comprenez? Troisième chose, cela atteste la puissance de la foi. Et ça nous concerne. Je rappelle, si j'ai la foi comme un petit grain de moutarde, je peux dire à cette montagne, se déplacer, se jeter dans la mer, et cela va s'accomplir, c'est une parole de Jésus. Donc si j'ai la foi... Des fois, on me dit, pasteur, ouais, mais il faut de grandes fois. Ouais, petite. Je dis, alléluia pour la petite foi. Parce que la petite foi, c'est celle qui va te permettre de déplacer cette montagne. Ce mal qui est là, alléluia. Alors que ce soit pour notre corps, pour notre esprit, Jésus est le même. Il est à même d'y répondre, d'y faire face. Parce que rien ne lui est impossible. Il peut tout. Amen. Le Nouveau Testament rapporte qu'au temps des apôtres et de Jésus lui-même, tant d'exemples de guérison, qui sont, de personnes qui sont venues justement pour la guérison, sont venues à sa rencontre. Il y avait des infirmes en tout genre qui ont été guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont exercé leur foi. Ne veux-tu pas cet après-midi exercer la foi? Même si elle est toute petite. Et justement, si elle est toute petite. Parce qu'elle peut déplacer une grande montagne. Amen. Pouvons-nous attendre aussi à lui pour être délivrés de ce qu'on va appeler des passions? Vous savez, les personnes qui me disent, pasteur, mais c'est plus fort que moi. Eh oui. Et une passion, c'est quelque chose qui triomphe de nous. Comme le disent certaines personnes, c'est plus fort que moi. Par exemple, il faut que je boive. Eh, il faut que je vole. Plus fort que moi. Eh, il faut que je m'intéresse à une autre qu'à mon épouse. C'est plus fort que moi, pasteur. Je me souviens de cette jeune fille, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps à Martigues, une jeune fille qui venait à Rodez aux réunions. Elle venait à Rodez, rue du Bal à Rodez, pour ceux qui un jour sont passés par là, c'est l'ancienne église, et elle venait aux réunions, puis un jour elle me demande de venir à sa maison avec mon épouse. On y va, et puis elle me dit, voilà pasteur, je ne peux plus venir. Hein? C'est dommage, vous ne croyez pas? Quand on sait que la foi, elle vient de ce qu'on entend, c'est dommage qu'elle ne veuille plus venir, parce que hop, on coupe la foi. Alors elle m'a dit, non, je ne peux plus venir parce que c'est plus fort que moi. Vous voyez, on y est. Quand je rentre dans un magasin, il faut que je reparte avec quelque chose que je n'ai pas payé. C'est du vol. Non? Elle était kleptomane, hein? Elle m'a dit, c'est plus fort que moi. J'ai dit, mais Jésus, il est plus fort que ce qui te tient. Elle n'a pas voulu. Elle a préféré continuer à vivre comme cela. J'ai dit, mais tu sais que c'est dangereux. Quand on sait que son papa, c'était un ingénieur en aéronautique, à, je ne sais plus où ça s'appelle là-bas, du côté de le bassin minier de Cazeville, Figeac, voilà, Figeac. Sa mère était une directrice d'école, elle avait un appartement que ses parents lui avaient payé, elle avait un travail, enfin, tout allait bien, mais il fallait qu'elle vole. Elle me dit, c'est plus fort que moi. D'ailleurs, c'est pas la seule, hein. Il y a des personnes de renom, des personnages publics. Voilà, c'est pas qu'il manque de sous, hein. C'est pas que la carte bleue ne fonctionne plus, hein. C'est que, eh bien, c'est plus fort qu'eux. Il faut qu'ils repartent avec quelque chose. Mais ça, c'est dangereux. Vous voyez, hein? Si on dit que c'est plus fort, c'est que donc on a quelque chose qui nous domine. Et chaque jour, on le voit, les rubriques des faits divers nous rapportent des cas semblables, de désastres même, hein, de personnes qui ont brisé leur vie du jour au lendemain parce que c'était plus fort que la passion du jeu. Hein, mon professeur de guitare, un jour, il me demande un entretien en particulier. Et puis il m'a expliqué. Il me dit, voilà, je ne peux pas m'empêcher de jouer. Alors il avait la moto, il avait la voiture de sport, il avait l'appartement, il avait la copine. Tout allait bien. Et puis il s'est pris dans cet engrenage. Il s'est bien joué. Il a laissé la voiture de sport, il a laissé la moto. Quand j'ai vu, il roulait avec une deux chevaux qui ne démarrait pas, il fallait le pousser pour le faire démarrer. Oui! Il était en train de perdre l'appartement et la copine était partie. Et donc il m'a demandé un entretien parce qu'il n'en pouvait plus. Parce que tout seul, il n'y arrivait pas. Amen. Vous voyez, c'est comme ça. Hein? Il y en a que c'est l'alcool, d'autres c'est la drogue, et j'en passe bien sûr. Alors aujourd'hui, bien sûr, on peut s'attendre tout simplement à Jésus pour la délivrance. Parce qu'il est venu justement pour cela. Et par la foi en Jésus, eh bien tu peux être délivré de tout ce qui te saoule, de tout ce qui te détruit, t'avilit, et de tout ce qui crée en toi et autour de toi le malheur. Jésus veut t'en délivrer. Il faut que tu le crois, mon ami. Moi, je le crois, mais je ne peux pas le croire pour toi. C'est à toi à le croire, à l'accepter, à le désirer. On peut s'attendre aussi à lui, bien sûr, au sein de la détresse. Le psalmiste disait, « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a répondu, il m'a mis à l'aise. » Moi, j'aime bien ça. Il m'a mis à l'aise. Alléluia. C'est le psaume 118, verset 5. Alors, vous savez, il y a des tas de choses qui sont là pour nous inquiéter. Et pour nous amener à la détresse. Je pense à la situation économique en ce moment, elle n'est pas facile. Comment trouver du travail? Il y a un paradoxe, là. Il y a une chose qui me dérange un peu. On demande à quelqu'un qui sort de l'école une expérience. C'est pas vrai? Comment peut-il avoir une expérience s'il sort avec un diplôme tout neuf? Et on ne va pas lui donner l'occasion de pouvoir justement prouver qu'il sait. Donc comment est-ce qu'il va acquérir de l'expérience? Parce que c'est ce qu'on demande tout le temps. Hein? Alors oui, c'est difficile, hein, le chômage, la solitude, la souffrance. Il y a bien des situations de détresse, bien sûr. Alors on peut faire cette prière, bien sûr. Hein, du sein de la détresse, je t'invoque, je crie à toi, Seigneur. Ça, tu peux le faire, mon ami. Amen. Parce que je sais une chose, c'est que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toute cette détresse. Amen. Il faut que tu aies cette assurance que Dieu va t'entendre. Amen. Oui. Il faut que tu aies l'assurance que s'il t'entend, il va te répondre, c'est-à-dire qu'il va te mettre à l'aise. Et aujourd'hui, attends-toi au Seigneur. Attends-toi au Seigneur. Enfin, nous pouvons nous attendre à Dieu quand tout va bien. Ça vous surprend? Non? Quand tout va bien? J'espère qu'il y a des gens pour qui tout va bien cet après-midi. Est-ce qu'il y a des gens pour qui tout va bien? Levez la main. Il y en a qui lèvent la main, je dis, il y en a qui ne vont pas lever la main. Personne ne va lever la main parce que Dieu que tout va bien. C'est dangereux, hein? T'as une recette, s'il te plaît? Comment tu fais? Voyez? Mais oui, mais il y a des personnes pour qui tout va bien. Et alléluia. Peut-être justement tout va bien parce que il y a autant qu'ils font confiance au Seigneur. Vous comprenez? Parce qu'il y a longtemps, justement, qu'il s'approche de lui constamment, hein, journellement, qu'ils viennent au pied de la croix, il lui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Vous voyez? Ça peut arriver, hein, même quand tout va bien, qu'on ait besoin de Jésus. Amen. Eh oui. La Bible nous rapporte l'exemple d'un homme. Il était ministre, hein, ministre du Royaume d'Éthiopie, ministre des Finances. Je sais que nos ministres des Finances, depuis pas mal de temps, ils ont des soucis. Hein. D'ailleurs, on le voit, hein, nos impôts, ils... Hein? Eh oui. Mais lui, apparemment, on ne dit pas qu'il avait un souci. On ne dit pas qu'il pensait au retour de Jérusalem de mettre des taxes, vous voyez, de monter les impôts. Non, il n'en parle pas du tout. Hein. Lui, il était allé à Jérusalem pour adorer Dieu. Hein. Vous lirez ça dans Acte 8, bien sûr. Un homme qui s'en soucie apparemment. Hein. Il appartenait à une classe sociale favorisée. Il avait des serviteurs du pouvoir, de l'autorité. Cependant, cet homme, il avait une préoccupation. Et cette préoccupation, elle concernait le domaine spirituel, la vie éternelle. Amen. Il voulait en savoir plus sur ce qu'enseignent les Écritures concernant le Messie, Jésus, Yeshua. Alléluia. Alors voyez-vous, Dieu va faire en sorte qu'il rencontre justement un évangéliste, Philippe, qui va lui expliquer la voie du salut. Et cet homme, je dirais, va parvenir à la foi et au salut. Il va être baptisé, il va confesser que Jésus est son Sauveur et son Seigneur. Pourtant, je reviens à ce que je disais, tout semblait aller bien pour lui. Amen. Des fois, on dit, oh là là, alors il n'y a que des personnes qui étaient une catastrophe terrible qui sont venues au Jésus, au Seigneur Jésus. Mais moi, j'en ai rencontré, justement, qui n'avaient pas tout ça. Et qui, malgré tout, savaient qu'il leur manquait quelque chose. C'est la personne de Dieu. Amen. Et cet exemple nous montre que quand tout va bien, nous avons néanmoins un besoin essentiel, c'est que nous avons besoin de Dieu. C'est que nous avons besoin d'être réconciliés avec lui, d'être pardonnés. Amen. Vous savez, il n'y a pas un juste dans la main seule, tous sont péchés, tous sont privés de la gloire de Dieu. Pasteur, moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Heureusement. Mais oui. Parce que s'il n'y avait que des voleurs et des criminels qui tournent les regards vers Jésus, ce serait dramatique, vous ne croyez pas? Alors, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Un jour, c'est un juge qui... un homme devant lui qui comparait, parce que je crois qu'il avait grillé un stop, ou un feu rouge, je ne sais plus. Et il disait au juge, monsieur le juge, c'est la première fois. Et le juge a répondu, c'est la première fois que vous vous faites prendre. Vous voyez? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors oui, nous avons tous besoin de Dieu. Nous avons tous besoin d'être pardonnés. Alléluia. Nous avons tous besoin d'être en paix avec Dieu. Nous avons tous besoin qu'il nous accorde le salut. Alléluia. Alors aujourd'hui, même si tout va bien, mon ami, attends-toi à Dieu. Amen. Tourne les regards vers lui. Pourquoi attendre chaque fois une catastrophe pour tourner les regards vers le Seigneur? Alors qu'il y a du bonheur à tourner les regards vers le Seigneur Jésus. Amen. Je dirais également que nous devons nous attendre à Dieu continuellement, à chaque instant qui passe, Parce que Dieu ne se résume pas, je dirais, au temps d'une réunion, d'un office religieux, d'un jour particulier de la semaine. Mais je crois une chose, c'est que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il est là, tout près, tout simplement de nous, toujours accessible. Alors pourquoi se priver d'une telle relation? Pourquoi se priver tout simplement d'invoquer justement celui qui est là, qui se met à notre disposition, celui qui vient justement pour que nous trouvions le bonheur, pour que nous ne soyons pas quelque part perturbés, mais en paix? Il est appelé le prince de la paix. Amen. Mais souvent on prend des décisions et après on pense à invoquer celui que Dieu nous a donné, qui est justement le divin conseiller. Et c'est après qu'on l'invoque. Pourquoi pas l'invoquer avant? Inverser les choses. Puisque lui, il est le divin conseiller. Puisqu'il est capable justement de nous diriger dans la bonne direction. Je dirais nous donner le bon conseil pour que nous allions dans la bonne direction. Parce que des fois on a le conseil, on ne veut pas l'accepter. Mais en tout cas, on a eu le conseil. Et après, on ne peut s'apprendre qu'à soi-même. Mais en tout cas, je crois qu'il y a là eh bien, quelque chose d'important. C'est nous attendre à Dieu continuellement. C'est un prophète de l'Ancien Testament, Osée, hein, qui pouvait dire ceci. Toi donc, reviens à ton Dieu. Garde sa miséricorde et la justice et espère continuellement en Dieu. Veux-tu espérer en Dieu? Veux-tu espérer en Dieu continuellement? Pas simplement au jour de la catastrophe, à l'instant, mais continuellement. Parce que je crois que le bonheur, il est là. La paix, la sérénité, elle est là. La prospérité, elle est là. Quand on s'attend au Seigneur d'une manière continuelle. Vous voulez, je vous en donne?